Bonjour. Tourne avec moi dans 1 Timothée. La première lettre à Timothée. On va aller ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, nous voulons que tu sois notre chant, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu sois notre passion. Seigneur, nous voulons que nos cœurs battent au rythme de ton cœur. Je veux te remercier, Seigneur, pour la louange qui parle à nos cœurs, qui nous instruit, qui nous ramène à toi, Seigneur. Merci pour ces chants qui me parlait de la croix. Merci pour ton esprit qui habite en moi et qui me ramène à toi constamment, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu ne me laisses pas. Tu ne m'abandonnes pas lorsque je suis en train de m'égarer. Merci pour ces moments où tu me convaincs que je suis dans le péché et où tu m'accordes la grâce de la repentance et la force pour abandonner toute idole et tout péché auquel je m'accroche. Merci, Père, pour ces moments où ton esprit a rallumé en moi une flamme qui semblait éteinte, parce que mon cœur était devenu indifférent à ta parole. Oui, vraiment, Seigneur Jésus, sans toi, je ne peux rien faire. J'aimerais te prier, Seigneur, pour cette assemblée. Pour ceux dans cette salle, Seigneur, qui ont le cœur refroidi. Qui passe à travers la routine de la vie chrétienne, Seigneur, mais dont le cœur est froid. Qui vivent cette tristesse jour après jour de se sentir loin de toi, Seigneur. Parce que le péché les a enveloppés. Parce que leur cœur s'est refroidi. Parce que ton esprit, sais-tu? Je te prie, Seigneur, dans ta grâce, de les conduire à la repentance. Et je sais que tu entends mes prières, Père. Je te prie de briser nos résistances, Seigneur. De renverser les raisonnements dans nos cœurs qui nous amènent à résister à ton esprit. Viens faire une œuvre au milieu de nous, Seigneur, à cause de ton nom, Jésus. Amen. Amen. J'aimerais offrir nos sympathies à Mme Sylvestre. On ne l'a pas mentionné, ça a passé comme à travers une fin de semaine, tout ça. Puis je pense que Mme Sylvestre est aux États-Unis aujourd'hui. Est-ce que M. Sylvestre est là? Non, hein? C'est ça, il est là-bas aussi, lui aussi, c'est bien. D'accord. Alors, vous pourrez leur offrir vos sympathies quand vous en aurez l'occasion. Mme Sylvestre a perdu son frère Et c'était quelque chose qui était attendu. Il était très malade, tout ça. Mais gardez-la dans vos prières, s'il vous plaît. Gardez-la près de votre cœur et qu'on puisse l'accompagner dans la prière. On termine ce matin une série sur la prière. Une courte série que j'ai faite, mais j'avais vraiment la conviction sur mon cœur qu'il fallait adresser ça avec l'Église. J'ai aussi la conviction que ça ne va pas tout changer. On ne change pas et on n'apprend pas à prier du jour au lendemain. C'est un cheminement dans lequel on est en train d'embarquer. La manière que je vois ça, c'est que nous devons développer ensemble une culture de prière. D'accord? La prière doit devenir partie intégrante de nos relations les uns avec les autres. Alors ce matin, je termine, mais je vais vous en reparler dans les 3 prochaines années. J'ai mis ça comme agenda devant le Seigneur, comme échéancier devant Dieu. Seigneur, à travers les 3 prochaines années, viens nous apprendre à prier. Et on verra en temps et lieu où est-ce qu'on est rendu avec ça. Mais ça va être un processus. Et donc, je vous demande d'embarquer avec nous, de participer avec nous dans ce revirement de culture dans l'Église. C'est par des petits gestes très, très simples. Vous savez, des fois, on se fréquente ici le dimanche matin à l'Église, puis on se voit, puis là, on est tellement spirituel, hein? Le terme qui me vient à l'esprit, c'est on pose des gestes religieux ensemble. Puis là, des fois, on va se voir à d'autres moments pendant la semaine, on se côtoie. Vous avez des amis ici dans l'église, puis vous les voyez à d'autres moments, puis là, c'est une soirée de loisirs. C'est quoi, la soutane est débarquée, tu sais? Mais pourquoi est-ce qu'on ne poserait pas un geste religieux ensemble dans ce moment-là? On s'arrête? Puis on dit, on est des chrétiens ici, là. C'est quand même une autre atmosphère que s'il n'y avait personne qui avait l'Esprit de Dieu ici. Puis on va prendre 5 minutes ensemble pour louer Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Et lorsque vous croisez quelqu'un qui vous partage une situation difficile, qui l'irrite, qui le fatigue, plutôt simplement que de dire, OK, c'est le fun que tu m'en parles, pourquoi ne pas prier tout de suite là, avec la personne? Lorsque vous allez être au travail, et qu'il y a des gens qui vont vous partager quelque chose de difficile qui survient, moi, je vous encourage à leur demander la permission de prier pour eux. Tout simplement. Si vous ne l'avez pas fait, si ce n'est pas dans vos habitudes, vous n'avez aucune idée des opportunités que vous manquez. Faites-le. On s'entend, faites-le. Le truc, c'est faites-le tout de suite après avoir dit que vous allez prier. Quand vous me demandez de prier pour vous, il faut être sûr à la porte, il y a plein de prières qui monte vite, 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 vite au Seigneur. Puis après ça, toutes celles que le Seigneur me rappelle, je les prends en note. Mais il y en a qui sont juste partis là. Mais juste saisir l'opportunité puis dire, tu sais que je suis chrétien, est-ce que tu voudrais que je prie pour ça, pour toi? Vous allez être surpris de voir à quel point les gens veulent que vous priez pour eux. Si vous sentez que le lien de confiance est assez grand, pourquoi ne pas leur offrir de prier tout de suite avec eux? Tout de suite, là. Tu vois-tu, je vais prier pour ça maintenant. On a une culture de prière à développer ensemble, par des petits gestes comme ça. Pour moi, le plus concret, là, c'est le premier que je vous ai donné. Soyons vrais, OK? Et on est chrétiens, ici le dimanche, on est chrétiens. Quand on se voit dans d'autres moments, on est encore chrétiens. Bien, faisons les choses différemment. Voulez-vous? 30 secondes, on prie ensemble. Est-ce que vous embarquez avec moi pour changer progressivement et mettre en place une culture de prière ensemble? Et ça va être un processus, ça va prendre du temps. Mais le Seigneur va le faire. On a vu dans la première prédication que la prière, c'est premièrement simplement une relation avec Dieu. Alors, quelle que soit votre conception de la prière, c'est d'abord et avant tout le plaisir de pouvoir parler à Dieu. Le plaisir d'entrer dans une relation avec Dieu. Cette relation-là est possible seulement par Jésus-Christ, on s'entend. Mais si je reviens simplement à ce que c'est la prière, c'est juste ça. Ce n'est pas un guichet automatique, c'est simplement une relation. Et la joie, humblement, de venir devant mon Créateur et dire, « Père, je veux te parler ce matin. » C'est ça la prière. On a vu ensemble dans la deuxième prédication, que apprendre à devenir des hommes et des femmes de prière, ça va être un long apprentissage. Ça va prendre du temps à apprendre à devenir des gens de prière, parce qu'on doit apprendre à demeurer en Jésus-Christ, à laisser sa parole nous habiter, à rester près de lui, laisser sa parole transformer notre manière de voir, de penser, de réagir et tranquillement venir transformer aussi nos prières, afin qu'on apprenne à prier comme Jésus veut qu'on prie, parce qu'on va être en train de prier selon sa volonté, selon sa pensée, selon son cœur. Et on va grandir au fur et à mesure des années dans notre foi. Ça va être un long cheminement. Il y a quelques personnes dans cette assemblée qui sont des gens de prière. Vous êtes peu nombreux, je vous l'assure. Vous êtes des spécimens dans cette salle. Ceux qui sont des gens de prière. Et quand je parle des personnes de prière, je parle de personnes qui ont appris à persévérer dans la prière, qui ont appris à laisser la parole de Dieu examiner leur prière, qui ont appris à vivre avec la conviction que leur vie doit refléter le cœur de Dieu pour que Dieu désire exaucer leur prière. Et donc, chaque moment dans ma journée est vécu comme un moment consacré à Dieu. Quelles que soient mes activités, j'appartiens à Christ. Je veux demeurer en lui. Je veux que mon cœur soit selon lui. Et constamment dans ma journée, je suis en train de lancer des prières à Dieu. Des actions de grâce, des louanges, des requêtes. Mais j'ai appris aussi qu'il y a des prières qui vont prendre une semaine avant d'être exaucées et d'autres qui vont prendre 30 ans avant d'être exaucées. Il y a quelques personnes dans cette salle qui sont des gens de prière. Vous êtes des exceptions. Priez pour nous, je vous en prie. Priez pour nous. Parce que la majorité d'entre nous, on aspire à devenir des gens de prière. Amen. OK, il y en a deux, trois qui, comme moi, aspirent à devenir des gens de prière. Est-ce qu'il y en a plus qui désirent devenir des gens de prière? OK. Oscar, je ne t'ai pas vu. Tu veux-tu devenir un homme de prière? Ça me fait peur parce que c'est toi qui fais les images puis tu ne pries pas, là. Ça m'inquiète. Merci à Scarfio, tu m'as rassuré. La majorité d'entre nous, c'est ça qu'on veut. On s'embarque dans un long processus où on va apprendre à prier. Il va falloir être patient. Il faut premièrement s'approcher de Christ, s'approcher de sa parole, le laisser habiter nos pensées, notre cœur, le laisser transformer ce qu'il veut transformer en nous et commencer à grandir dans notre foi et dans la prière ensemble. C'est un changement de culture, ça va prendre du temps. Je suis conscient de ça. Maintenant, ce matin, je veux terminer avec quelque chose de pratique, de concret. Une requête, un sujet de prière pour qu'on puisse passer à l'action ensemble, qui devrait nous occuper pour quelque temps. On devrait en avoir pour quelques années à grandir, à apprendre, et avec cette requête-là, d'accord? On devrait être occupé pour un certain temps. Priez pour que Dieu sauve les hommes. Mais soyons plus bibliques encore dans la manière de le dire. Priez pour tous les hommes, tous les êtres humains, afin que Dieu les sauve. Et je sais qu'il y en a déjà qui sont pas mal troublés avec ce que je viens de dire là. Mais on va lire les Écritures. On va aller voir si ça vient de la parole de Yannick ou de la parole de Dieu. Priez pour que Dieu sauve les hommes. Priez pour tous les hommes, tous les êtres humains, afin que Dieu les sauve. 1 Timothée, chapitre 2. Lorsque Paul a écrit sa lettre à son gars en formation, son Timothée, qui par hasard s'appelait Timothée. Lorsque Paul a écrit à son Timothée sur le fonctionnement de l'Église, il dit, « OK, Paul, ta formation n'est pas terminée, j'ai besoin de t'expliquer c'est quoi qui est important dans l'Église. Qu'est-ce qu'on fait dans une Église? » On est dans une Église, on est à la bonne place en lisant la lettre de Paul à son Timothée, qui s'appelait Timothée, comme par hasard. Et voici ce qu'il dit. Il commence avec une introduction, des salutations, des encouragements. Ça, c'est le chapitre 1. Puis on arrive au chapitre 2. Et Paul commence à donner des directives sur le fonctionnement de l'Église. Première directive qu'il donne, il dit, voici la priorité. Verset 1, j'exhorte donc, j'encourage, je demande avant toute chose à faire des prières. La priorité dans l'Église locale, c'est la prière. C'est ce que Paul dit ici, avant toute chose, j'exhorte à faire des prières. La priorité doit être au cœur de la vie de l'Église locale. Maintenant, pas n'importe quelle prière dans ce contexte-là. La prière pour tous les hommes. Et plus précisément, pour le salut de tous les hommes. Je vous lis 1 Timothée 2, les versets 1 à 7. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Avant toute chose, Paul nous dit de prier pour tous les hommes et dans le contexte ici, plus précisément, de prier pour le salut de tous les hommes. Dieu veut que la prière pour le salut des hommes soit au cœur de la vie de l'Église. Lorsque nous nous assemblons, que ce soit en petit groupe, deux ou trois personnes, lorsque nous prions, nous devrions être en train de prier pour l'évangélisation et que ce soit une priorité dans l'Assemblée et que Dieu sauve. Voyez-vous, Paul sait très bien qu'on va prier pour notre travail, nous allons prier pour la santé de nos enfants, nous allons prier pour que Dieu guérisse notre cancer lorsqu'il y a un cancer qui va se révéler dans notre vie. Paul prend pour acquis que nous allons penser à prier pour ces choses, mais le sujet de la prière que Paul veut ramener devant l'Église, c'est la prière pour le salut des hommes. Si Paul prend le temps de dire à Timothée ici, « Avant toute chose, je veux que vous priez pour tous les hommes », c'est que l'Église ne le faisait pas suffisamment. Elle était occupée par autre chose que de prier pour tous les hommes. Paul sait très bien qu'on va prier pour tous nos besoins à nous. Mais c'est la prière pour le salut des êtres humains qu'il veut voir en premier. Et c'est un sujet concret aussi. Ce n'est pas théorique seulement parce qu'on a à cœur le salut des gens autour de nous, n'est-ce pas? Vous priez pour vos enfants, vous priez pour les gens qui sont proches de vous. Vous avez à cœur leur salut. C'est quelque chose qui est déjà sur notre cœur. C'est une requête qui est déjà là. Et je sais que prier pour le salut des hommes, spécialement la manière que Paul le formule ici, ça soulève des questions difficiles. Parce que parfois on est sceptique, puis on dit « oui, mais c'est Dieu qui doit le faire, puis la personne doit prendre une décision, comment est-ce que ça fonctionne, tout ça. » Puis on commence à prier pour des gens, puis ça fait des années qu'on prie pour eux, et on ne voit pas nécessairement les exaucements. Et tranquillement, il y a une espèce de... il y a un mensonge qui s'installe. C'est comme si... lorsqu'on pense à telle personne, on a l'impression d'être devant un individu qui est totalement imperméable à l'Évangile. Cette personne-là est faite d'une autre nature que la mienne. Mon cœur était fait pour que l'Évangile y entre, mais pas le sien. En fin de compte, j'étais moins pécheur ou d'une nature moins profondément corrompue que lui. Peut-être qu'il restait encore quelque chose en moi qui était plus ouvert à l'Évangile que lui. Vous voyez à quel point c'est... Et cette pensée-là vient facilement. Pensez à des gens pour qui vous avez prié pendant 1 an, 5 ans, 10 ans. Et on dirait progressivement qu'on ne croit plus que l'Évangile peut entrer dans ce cœur-là. Maintenant, j'aimerais ça que vous entendiez ce que Paul est en train de dire à l'Église ici. Paul est en train de dire, « Je veux... » non seulement que l'Église prie pour ses besoins, pour ses bobos, qu'on prie pour notre travail, qu'on prie pour nos finances, nos vacances, notre repense, mais qu'on prie pour le salut des hommes, qu'on prie pour le salut des âmes. Et il n'y a rien de mal à avoir des requêtes personnelles. Lorsque les apôtres ont demandé au Seigneur de leur enseigner à prier, voici ce que Jésus leur a dit dans Matthieu 6, versets 9 à 11. Voici comment vous commencez à prier. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Hey, c'est correct de prier pour nos besoins personnels. C'est légitime. Mais c'est comme si lorsqu'on arrive ici dans cette lettre où Paul est en train de dire à Timothée, « Voici ce que l'Église, l'Assemblée doit faire. » Il prend pour acquis que de toute façon, on va prier pour notre job quand on est sur le bord de la perte. On va prier pour que la paie rentre si on est nerveux là-dessus. On va prier pour que la santé se rétablisse si notre santé est en train de partir. Paul dit, c'est bien, c'est correct. Maintenant, j'ai à cœur et je veux que vous priez pour le salut des hommes. C'est pour ça que je veux que vous priez. Paul veut que nous prions pour les gens qui ont besoin de l'Évangile. Ce qui est troublant dans ce texte-là, c'est qu'il va plus loin que ça. Paul est en train de dire, c'est correct que vous priez pour papy, mamie et vos amis. Maintenant, la vision est beaucoup trop petite. Je veux que vous priez pour tous les hommes, pour tous les êtres humains. Et Paul donne une raison qui est comme évidente. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières pour tous les hommes, pas seulement votre entourage. Et la raison, il la donne au verset 5. Une première raison au verset 5. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors, tous les hommes sur la terre ont un seul moyen d'être sauvés, c'est passer par Jésus-Christ. Tous les hommes ont besoin du salut en Jésus-Christ, pas juste papy, mamie et mes amis. Tous les hommes ont besoin du salut en Jésus-Christ également, pas juste mes proches, pas juste ceux autour de moi. Parce qu'il y a un seul médiateur. Alors déjà, papy, il nous fréquente régulièrement. Et il voit notre vie à nous. Il voit notre témoignage et on prie pour le salut de papy. Mais qu'est-ce qui arrive avec ceux qui sont loin, qui sont seuls, ceux qui sont à l'autre bout de la terre, dans des pays où s'afficher pour le nom de Jésus-Christ veut dire que tu perds tes biens, veut dire que tu commences à être persécuté? Qui va prier pour eux? Paul veut que notre conscience comme Église s'élargisse. Et il veut que nous commencions à prier pour tous les hommes. Vous savez ce que j'ai réalisé pendant que j'étudiais le passage cette semaine? J'ai réalisé que c'était différent de prier pour que Dieu bénisse notre évangélisation, nos efforts, et prier pour tous les hommes. C'est très, très, très différent. Seigneur, je m'en vais prendre un café avec un collègue de travail, puis j'aimerais ça que tu ouvres une porte. Paul nous demande de prier pour que Dieu ouvre une porte. Là, il est en prison, il écrit aux chrétiens de Colosse. Il leur dit, Colossiens, priez pour moi, je suis en prison, j'ai des opportunités. Priez pour que Dieu ouvre une porte pour la parole. Priez pour mon effort d'évangélisation ici. Amen, c'est correct. Je m'en vais au travail, je vais aller prendre un dîner avec un collègue de travail. On a déjà abordé un petit peu l'Évangile ensemble. Je vais prier pour que Dieu vienne bénir mon effort d'évangélisation. On organise un spectacle de Noël. Je vais prier pour que Dieu vienne bénir et que Dieu vienne sauver à travers ce spectacle-là. Amen. J'ai réalisé en étudiant le passage que c'est une chose de prier pour que Dieu bénisse nos efforts d'évangélisation et c'est autre chose de prier pour tous les hommes. Parce que la vision est encore ici, maintenant et dans mes préoccupations à moi, lorsque je suis en train de prier pour mes efforts d'évangélisation. Ça se ramène encore d'une manière ou d'une autre à quelque part à moi. Mais quand je lève les yeux un petit peu plus haut et je m'en vais sur la route et je considère qu'il y a 380 000 personnes qui habitent dans le Grand Longueuil et que je commence à prier, je dis, Seigneur, je te demande de sauver les 380 000, Seigneur. Parce qu'ils ont tous besoin de l'Évangile, Seigneur. Et lorsque je commence à considérer qu'il y a près de 7 milliards de personnes sur la terre, Seigneur, je te prie de sauver les hommes sur la terre. Et la première raison, c'est qu'il y a un seul médiateur. Ils ont tous le seul même moyen d'être sauvés, chacun d'entre eux. Il n'y a personne qui va trouver une autre porte pour se rendre auprès de Dieu. Mais Paul donne une deuxième raison. Paul donne une deuxième raison, verset 3. Et là, Paul reprend le langage qu'on trouve dans l'Ancien Testament lorsque les Juifs allaient offrir des sacrifices qui plaisaient à Dieu. Il dit au verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu. » C'est vraiment le langage du sacrifice offert. Lorsqu'on prie pour tous les hommes, lorsqu'on prie pour les rois, lorsqu'on prie pour les autorités, lorsqu'on commence à prier pour eux, pour leur bien, pour que Dieu leur fasse du bien ultimement, pour qu'il leur donne l'Évangile, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. C'est un parfum, c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Pourquoi est-ce que ça lui plaît? Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La deuxième raison pour laquelle on devrait prier pour tous les hommes et élargir notre vision, arrêter de prier juste pour deux, trois personnes autour de nous, mais vraiment prier pour les hommes, pour le salut des hommes, pour que Dieu les bénisse. Mais la première raison, c'est qu'il y a un seul médiateur. La deuxième raison, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, je sais, il y en a plusieurs qui sont en train de décrocher. Là. Il y a toutes sortes de passages qui viennent dans votre esprit, puis vous dites, « Ouais, mais... » Parce que Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Yannick, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas tous les sauver s'il veut? C'est que... Puis là, il y a un paquet de questions qui viennent dans votre tête, dans votre esprit. Ce matin, je veux exhorter l'Église à respecter ce que la parole de Dieu est en train de dire ici. À faire la différence entre poser des bonnes questions à la Bible quand c'est le temps de faire une étude biblique et être un adorateur qui adore Dieu et qui fait ce qu'il lui demande. Pour moi, il y a une distinction entre les deux qui est importante. Quand tu commences à prier pour le salut des hommes et que tu commences à étudier les Écritures et tu commences à voir des sujets difficiles comme l'élection et des choses comme ça, à un certain moment donné, ça se peut que tu sois dans la prière, puis là, tu commences à te battre avec ces questions-là dans ta tête, puis là, tu commences à dire « Oui, mais Seigneur, c'est parce que dans ta parole, tu dis ça ici, et très, très rapidement, ça se peut que tu arrêtes de prier. » Parce que tu pars avec les « Oui, mais Seigneur, tu dis ça ici dans ta parole. » Et là, parce que tu commences à étudier ces sujets-là qui sont difficiles à saisir, difficiles à comprendre. Dieu ne veut pas que les hommes pêchent. Pourtant, les hommes peuvent pécher. Dieu est tout-puissant. Oh, oh! J'arrête de prier. J'arrête de prier. Tout d'un coup, là, je commence à partir avec toutes ces questions-là. Mais il y a un temps pour étudier la parole. C'est des sujets extraordinaires à étudier. Ce sont des beaux sujets à étudier. C'est édifiant de comprendre un petit peu plus ces mystères de la parole de Dieu. Il y a un temps pour étudier et il y a un temps pour adorer et prier. Mais la tentation est là pour nous d'arrêter de prier pour ces choses-là parce que c'est trop gros, c'est trop grand, c'est hors de notre compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est tout mêlé avec ces questions-là, puis on ne sait pas, ouais, mais comment ça marche? Il faut que je prie pour tous les hommes, mais il y a juste peu d'élus. Comment ça fonctionne? Puis là, on part avec toutes ces questions-là, puis on arrête de prier comme avec foi pour que Dieu sauve, Dieu sauve, Dieu sauve. Mais là, on est pris avec toutes ces questions-là, puis on n'a pas trouvé de réponse à ça. Donc, on va, sans avoir trouvé de réponse, au moins prier pour le salut de nos enfants. Mais ce n'est pas parce que j'ai trouvé une réponse. Je ne sais pas si mes enfants sont élus. Mais je ne voudrais quand même pas qu'ils soient perdus. Fait que je vais prier au moins pour leur salut à eux. Fait que peut-être que je vais faire des prières bizarres du genre, « Seigneur, je te prie que ce soit des élus. » C'est correct. Si tu restes là, c'est correct. Prie comme ça pour la terre au complet, OK? « Seigneur, je te prie pour que toute la terre soit élue. » Bon, tu avanceras après ça dans ton étude de la parole. Mais voyez-vous, vous n'avez pas commencé à prier pour le salut de vos enfants quand vous avez démêlé toutes ces questions-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez laissé parler votre cœur. Et vous avez dit, « Père, tu es mon père. Et moi, j'ai un cœur de père, j'ai un cœur de mère pour mes enfants. » Je ne sais pas c'est quoi que tu leur réserves comme destinée, mais laisse-moi te parler avec mon cœur. Laisse-moi te dire que je veux que tu les sauves. Puis que je vais te supplier pour leur salut jusqu'à mon dernier souffle, Seigneur. Amen. C'est comme ça qu'on fait pour les gens qu'on aime, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on fait pour les gens qu'on aime. On n'attend pas d'avoir toutes les réponses théologiques. d'avoir démêlé toutes les questions. Simplement, on laisse parler notre cœur devant Dieu. Et voici ce que Paul nous révèle ici. Que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et vous continuerez vos études bibliques quand c'est le temps de faire les études bibliques. Mais quand c'est le temps de supplier, prenez la parole de Dieu au mot. Reconnaissez le fait tout simplement qu'on est des créatures, qu'on est des adorateurs, et ne quittez pas cet endroit-là. Continuez à prier pour eux. Pour moi, c'est un petit peu l'attitude de Jésus. Lorsque Jésus guérissait les malades, est-ce que vous voyez un passage où Jésus est là, puis il voit une foule qui vient vers lui pour qui veut être guérie, puis là, il commence à dire, élu, OK, dans cette rangée-là, celui-là, non, là-bas, méchant, là-bas, toi, oui. Là, il multiplie les pains, il donne les pains. Il apprend à ses apôtres comment discerner. Il faut que tu regardes dans le regard de la personne, tu vas voir, puis tu décides si tu lui donnes un pain ou non. Mais voyez-vous, Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Christ guérissait tous les malades qui venaient à lui. Il donnait du pain à la foule qui était là. Et Christ nous a donné comme mission, comme mandat, d'aller vers toutes les nations et de faire de toutes les nations des disciples, sans discrimination. Amen. Je ne me pose pas la question lorsque je veux annoncer l'Évangile. Est-ce que c'est un élu? Ce n'est pas un élu. Qu'est-ce qu'il y en a avec lui? Oui, mais son cœur est dur, peut-être que... Non, j'annonce l'Évangile. Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Annonçons la parole de Dieu à tous les hommes. Prions pour le salut de tous les hommes. Amen. Tout simplement, Seigneur, viens sauver tous les Québécois. J'en veux pas un en enfer, Seigneur. S'il y a assez de bonté en moi, assez d'amour et de grâce en moi pour avoir ce désir-là, je peux refléter le cœur du Père ici. Tournez avec moi dans Romains 10, s'il vous plaît. Romains 10. Paul, c'est le spécialiste des questions difficiles. Hein? Mais regardez ce qu'il dit au verset 1. En parlant d'Israël, en parlant des Juifs, de sa nation, il parle avec son cœur. Oh, il sait que c'est des questions difficiles. Nul ne vient au Père s'il ne l'attire à lui. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il parle d'Israël. Il priait pour le salut d'Israël. Est-ce que quelqu'un, à une époque, qui aurait dû être plus sceptique que Paul devant la possibilité que les Juifs soient sauvés, il arrivait dans une ville, puis en quelque temps, ses principaux ennemis, c'étaient les Juifs. Qui rejetait l'Évangile, qui rejetait Jésus-Christ. Et il priait pour que les Juifs soient sauvés. Ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et Paul avait appris avec les années à exprimer l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu nous dit dans sa parole qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il y a des questions difficiles derrière ça. Moi, je vous demande de commencer à prier pour le salut de tout le monde qui habite à Longueuil. Le salut de tout le monde qui habite à Montréal. Le salut de tous les hommes qui sont sur la terre. Le Seigneur fera la différence. Il décidera qu'est-ce qu'il fait avec ça. Mais si nous voulons refléter le cœur de Dieu pour les hommes, commençons à prier pour le salut de tous les hommes. Parce que tous les hommes sont devant la même difficulté. Il y a un seul moyen pour eux d'être sauvés, c'est Jésus-Christ. Et je crois que Dieu va bénir. J'ai réalisé en étudiant le passage, puis en étudiant cette question-là, que j'avais tendance à prier pour que Dieu fasse grandir l'Église de l'espoir. Ça, c'est une prière de pasteur, d'accord? Seigneur, fais grandir l'Église de l'espoir. Ça, c'est une prière de pasteur. Puis, il y a toutes sortes de bons motifs là-dedans. Vous savez, c'est tout sain, c'est tout pur. n'y a vraiment rien d'associé avec l'image de ce que je fais une bonne job, puis tout ça. Non, non, du tout, du tout. Seigneur, fais grandir l'Église de l'espoir. Mais pendant que j'étudiais ce passage-là, Dieu me montrait mon cœur. Mais on s'en fout, tu sais, si c'est à l'Église de l'espoir qui s'en vient, je m'excuse, je suis un peu gros. Qu'est-ce que ça fait? Je veux qu'il y ait au ciel. Je veux qu'il y ait au ciel, Seigneur. C'est tout ce que je veux. Je veux qu'il soit sauvé. Sauve-les, c'est tout. Et Dieu me montrait mon cœur. Je crois que Dieu va bénir ça. Je crois que Dieu va honorer ça. Si j'arrête de prier juste pour papy puis mamie, je continue à prier pour papy puis mamie. Mais j'arrête de prier juste pour eux. Et je commence à prier pour tous les hommes que je crois. Et lorsque je me promène sur Facebook, je prie pour tous les visages que je vois. Et lorsque je m'en vais dans le métro et que je m'en vais me promener dans une place publique, je commence à prier pour les gens qui sont là. Seigneur, sauve-les. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Parce qu'ils sont tous condamnés s'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Mon cœur commence à battre au rythme du cœur de Dieu. Parce que j'arrête d'être centré sur moi-même et sur une petite vision. Amen. Alors, je veux vous demander que nous commencions à prier pour le salut de tous les hommes et que nous commencions à prier de manière concrète pour le salut d'individus aussi. D'accord? Je ne suis pas en train de mettre ça de côté. Prions pour le salut de tous les hommes et sortons notre liste de prières. Commençons à inscrire des noms. Voici un témoignage de George Muller. Si vous n'avez jamais lu son autobiographie, il faut que vous lisiez ça. George Muller était un homme de prière. Je ne pense pas que c'est la norme. Je ne pense pas que tout le monde est appelé à vivre une vie de prière comme George Muller. C'est une vie exceptionnelle où il a fondé un orphelinat et régulièrement, il arrivait dans des situations où il n'y avait pas la nourriture pour nourrir les enfants. Les enfants étaient assis à table. Et Dieu avait donné un don de foi à cet homme-là, c'est assez évident. Et tout simplement, il remerciait le Seigneur pour la nourriture qui s'en venait. Et c'est arrivé à plusieurs reprises, tout simplement, que des histoires de camions de lait qui brisaient, puis ils rentraient tout ça dans l'orphelinat, juste devant l'orphelinat. Toutes sortes d'histoires extraordinaires. Je ne crois pas que c'est la norme pour tout le monde. Mais je pense que Dieu donne des gens comme ça pour qu'ils soient des phares pour nous, pour qu'on puisse apprendre de leur manière de prier. Et voici ce que George Muller écrit dans son autobiographie. « Nous sommes cette année en 1864. » Et j'attends certaines bénédictions de Dieu pour lesquelles je prie tous les jours depuis 19 ans et 6 mois, sans une journée d'interruption. Pourtant, la réponse n'est pas encore donnée complètement concernant le salut de certaines personnes. Ça fait 19 ans et 6 mois qu'il prie pour plein de gens. Il y en a qui ne sont pas encore sauvés. Entre-temps, j'ai reçu plusieurs milliers de réponses à la prière. J'ai aussi prié chaque jour sans relâche pour la conversion d'autres personnes durant une dizaine d'années. Et pour d'autres, 6 ou 7 ans. D'autres encore 4, 3, 2 ans. Pour les autres, 18 mois. Mais malgré tout, je n'ai pas encore reçu la réponse concernant ces personnes pour lesquelles j'ai prié durant 19 ans et 6 mois. Mais je continue de prier tous les jours en attendant la réponse. Prenez courage, chers lecteurs chrétiens. Priez avec empressement. Seulement assurez-vous que ce que vous demandez sert vraiment à glorifier Dieu. Alors commençons à prier pour le salut de tous les hommes. Parce que ça va glorifier Dieu. C'est complètement dénué de nos intérêts personnels. Commençons à prier pour le salut de la ville de Longueuil. Remercions Dieu pour cette place où nous vivons. Non seulement prier pour eux, prier pour leur salut, mais Paul ici dit de rendre grâce. Et ce matin, pendant que j'étais en train d'appliquer mon message dans la prière, j'étais en train de dire, je te remercie Seigneur pour ce pays où je vis, où il y a de la paix. Paul demande de prier pour les rois. Il y a quelque chose qui est important ici. On dirait que le verset 2 est comme une parenthèse qui sort de nulle part. Mais regardez bien ce que Paul fait au verset 2. Il dit, « Priez pour les rois, non seulement votre roi, mais les rois. Priez pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Et l'idée qu'il y a derrière ça ici, c'est prier pour qu'on ait un contexte où on va pouvoir vivre notre foi d'une manière honnête devant les hommes. Le terme pour honnêteté qui est là relève de d'une dignité. Ailleurs, dans d'autres versions, c'est traduit par dignité. Priez pour que les rois mettent en place des lois qui nous permettent de vivre notre foi publiquement, dignement. Et donc, on doit prier pour ça. On doit prier pour que la direction que notre société est en train de prendre n'est pas contre la foi chrétienne et qu'on semble être des parias. Si je vous donne un exemple, on pense à l'éducation des enfants. On doit prier pour le gouvernement pour qu'on puisse éduquer nos enfants selon les principes de la parole sans que les médias, sans que le gouvernement nous fasse passer pour des abuseurs d'enfants. Amen. On doit prier pour ça. Parce qu'il y a toute une image qui est donnée derrière ça, et après ça, on arrive au travail, puis on veut annoncer l'Évangile, puis on passe comme des batteurs d'enfants. Non, il dit, priez pour que vous puissiez vivre votre foi, votre piété librement, tranquillement, en toute dignité, et que les gens voient que vous êtes des personnes qui avaient des belles valeurs, des bonnes valeurs. Ça demande un certain gouvernement pour que ça puisse se faire. Lorsque les persécutions viendront, on ira dans d'autres passages et on dira merci Seigneur pour les persécutions. Mais Paul nous dit, priez pour les rois, priez pour les autorités, afin que vous puissiez vivre publiquement votre foi, que les gens vous regardent, qu'ils voient que vous êtes des gens honnêtes, qui ont une bonne vie. Si on vit dans un État, dans un pays qui encourage la corruption, et que moi, tout simplement, lorsque quelqu'un vient m'offrir un contrat, ben je dis non, moi je ne veux pas payer en dessous de la table, mais on pense pour des beaux os. Mais si je vis dans un pays qui continue à dire qu'il veut être honnête et droit, j'ai la possibilité, tout simplement, comme je l'ai fait cette semaine, payer une facture, de dire, non, je veux payer les taxes, c'est quelque chose de très important pour moi. Tout simplement. Parce que ceci va servir pour le salut des hommes, et c'est dans ce contexte-là que c'est donné. Parce que ceci va servir au témoignage de l'Église, c'est dans ce contexte-là que c'est donné. Frères et sœurs, on va commencer à apprendre à prier ensemble. La terre ne va pas nécessairement se mettre à trembler. On ne va pas nécessairement voir des gens s'accrocher après les colonnes lorsque Jonathan Edwards s'est mis à prêcher sur l'enfer, craignant de tomber en enfer. Mais Dieu va répondre à nos prières. Et une des choses importantes dans la prière, c'est de prier selon la volonté de Dieu. Quand vous aurez trouvé toutes les réponses aux questions difficiles d'un Timothée 2, venez me les partager. En attendant, commençons à prier, s'il vous plaît, pour le salut de tous les hommes. Et priez individuellement pour des personnes aussi. Et prenez en note que vous avez commencé à prier pour ces gens-là. Et dans l'année qui s'en vient, on va placer devant vous des moments pour grandir ensemble dans notre vie de prière. Et Dieu va faire de grandes choses. Dans la prochaine année, on va prendre 6 périodes de 24 heures de prière. Soyez attentifs, s'il vous plaît, dans la prochaine année, au moment où on va vous demander de passer à l'action pour la prière. Parce qu'on veut développer ensemble une culture de prière. On va prier. Père, j'aimerais te prier pour toute la terre. Parce que tous ceux qui sont sans Jésus-Christ sont condamnés. J'aimerais te demander, Seigneur, de sauver. Aie pitié de tous les hommes sur la terre, Seigneur. Je te laisse le soin de faire ce qui est bon. Et ma requête, c'est que tu sauves, Seigneur. Et je veux avoir la même compassion pour l'étranger que je croise dans le métro. La même compassion que j'ai pour mes proches, Seigneur. Je veux regarder avec le même regard, Seigneur, le caissier qui va me servir tout à l'heure. Conscient de son état, de sa destinée sans Jésus-Christ. Conscient que toi, tu l'aimes, qu'il est ta créature tout autant que mon fils et ma fille, que mon père, que mon beau-père. Seigneur, je te prie pour le salut de tous les gens qui habitent à Longueuil. Ils ont tous besoin de toi, Jésus-Christ. Ils sont tous condamnés sans toi, Jésus-Christ. Et non seulement viens bénir nos efforts d'évangélisation, Seigneur, mais viens sauver les hommes. Viens te manifester. Viens nous faire entendre de ces histoires qui réjouissent notre cœur parce qu'on te voit sauver des âmes, Seigneur. Un seul s'est offert en rançon pour tous. C'est toi, Jésus-Christ. Fais-leur entendre ta voix. Fais-leur entendre ton chant, Seigneur. Convainc-les qu'ils sont damnés sans toi, Jésus-Christ. Mais qu'en toi, il y a la grâce pour être réconcilié avec Dieu. Père, nous venons devant toi parce que tu es bon. Tu fais lever ton soleil sur les bons comme sur les méchants, Seigneur. Tu prêtes vie à tous, Seigneur. On te prie de faire grâce et de sauver, Seigneur. Puisque tu nous dis dans ta parole que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Viens te glorifier. Entends nos prières. Alors qu'on termine cette série, je veux te demander, Père, de nous apprendre à prier dans les prochains mois, les prochaines années. Apprends-nous humblement à prendre ta parole au mot et à prendre ces passages, Seigneur, sachant que nous sommes selon ta volonté lorsque nous prions ainsi. Apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à rester en toi, Jésus-Christ, à ne pas nous éloigner de ta parole, à chercher à vivre tes commandements. Apprends-nous à voir en nous-mêmes lorsque nous péchons, Seigneur, et à nous repentir, à retourner rapidement à la croix, afin de continuer à marcher jour après jour rempli de ton esprit, sans attrister constamment ton esprit. Mais au contraire, Seigneur, nous voulons courir chaque matin en nous réveillant à la croix, à la grâce qu'il y a en toi. Afin de vivre chaque journée, Seigneur, comme un canal de grâce pour les gens autour de nous, leur annonçant l'Évangile et priant pour leur salut. Et Seigneur, par le fait même, je te demande de prier tous les enfants, je te demande de sauver tous les enfants, Seigneur, de cette Église. Tous ceux qui viennent ici et tous ceux qui ne viennent plus ici, Seigneur, viens tous les sauver. Viens sauver, Seigneur, les conjoints qui ne t'appartiennent pas encore. Viens faire la différence par ton esprit dans leur cœur, Seigneur. Nous ne pouvons pas sauver les hommes, toi tu le sais, nous le savons, Seigneur. C'est toi qui viens produire ce miracle, cette humilité d'une créature qui se courbe devant toi et qui reconnaît qu'il n'y a de grâce qu'en Jésus-Christ. Seigneur, entends nos prières parce qu'elles sont selon ta volonté. Parce qu'elles glorifieront ton nom, Seigneur. Viens pas remplir cette église. Viens sauver l'orgueil, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.